La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Suivre le Christ demande de la volonté, demande des efforts, des renoncements, des choix difficiles parfois. Nous connaissons la parole de Jésus qui dit que celui qui veut le suivre doit renoncer à lui-même, se charger de sa croix et même perdre sa vie pour la retrouver, bien évidemment, d'une manière plus pleine. Et devant ces exigences, devant l'exigence du combat à mener contre le péché, contre la nature pécheresse, contre les ruses du diable, nous pensons assez naturellement qu'il faut que nous soyons forts. Forts pour résister, forts pour combattre, forts pour remporter la victoire, forts pour que Dieu soit fier de nous. Mais en fait, cette pensée me semble fausse. Elle est même à mes yeux dangereuse, parce qu'elle pourrait nous amener à croire que nous pouvons être suffisamment forts. Elle pourrait nous amener à croire que nous pouvons y arriver par nous-mêmes, si nous y mettons assez de volonté, de bonne volonté, assez d'efforts. L'apôtre Paul aborde ce sujet dans un passage de sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, les versets 1 à 10. Et dans ce passage, il arrive à la conclusion que pour être fort, il faut être faible. C'est paradoxal, c'est contradictoire, c'est illogique en apparence. Mais c'est ce que l'apôtre dit, et j'aimerais ce matin essayer avec vous de comprendre ce qu'il dit et pourquoi il le dit. Je vous invite à suivre la lecture ou dans votre Bible ou alors directement à l'écran. Je lis donc 2 Corinthiens 12, les versets 1 à 10. 2 Corinthiens 12, 1 à 10. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps, je ne sais, était-ce hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut ravi jusqu'au troisième ciel. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes faiblesses. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi à cause de l'excellence de ses révélations, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Trois fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pour aborder ce passage, je vous propose premièrement de considérer son contexte, ce qui va nous amener assez rapidement à parler de la fameuse écharde dans la chair, qui sera notre premier point. Nous venons de le lire, il y a dans la vie de l'apôtre Paul une souffrance, une écharde dans la chair. C'est comme ça qu'il la nomme. Dans vos Bibles, vous avez peut-être une épine dans la chair. C'est une souffrance. Verset 7, à cause de l'excellence de ses révélations, ça termine la phrase précédente, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. La Bible du Semeur traduit d'ailleurs « parce que ces révélations étaient extraordinaires. Pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. » Avant de voir dans un instant ce que nous pouvons dire de cette souffrance, de cette écharde dans la chair, j'aimerais donc commencer par dire quelques mots sur le contexte de cette situation qui nous est décrite dans ces versets. Il y a des souffrances dans la vie que nous ne comprenons pas. Il y a des souffrances dans la vie que nous ne comprendrons jamais ici-bas. L'apôtre Paul, lui, connaît la raison de cette souffrance, la raison de son écharde dans la chair. Par deux fois, cela doit certainement souligner l'importance de la chose, par deux fois au verset 7, il dit que cette écharde lui a été donnée afin qu'il ne soit pas enflé d'orgueil. Je regarde pour voir si le rouge, c'est pas génial le rouge quand même, hein. Que je trouve une meilleure couleur. Mais de quoi l'apôtre Paul pouvait-il s'enorgueillir? La réponse nous est donnée dans le même verset. Il y est question de l'excellence de certaines révélations que Dieu a faites à l'apôtre. Et ces révélations étaient apparemment tellement extraordinaires que si Dieu n'avait pas permis cette écharde dans la chair de Paul, alors pour dire les choses très simplement, il aurait attrapé la grosse tête. Paul se serait enflé d'orgueil. Il serait devenu très orgueilleux et Dieu l'en a préservé en permettant une certaine souffrance dans son corps, dans sa vie. Au début du chapitre 12, nous avons lu le récit de cet homme qui, 14 ans auparavant, a été ravi jusque dans le troisième ciel. Les Juifs de l'époque avaient une compréhension du ciel qui est légèrement différente de la nôtre aujourd'hui, une compréhension de l'univers même complètement différente, avec plusieurs ciels dans leur compréhension. Le premier ciel, c'est simplement le ciel avec l'atmosphère, avec les nuages. Et puis, il y avait un deuxième palier, le deuxième ciel, c'est la voûte céleste, c'est là où il y a les astres, le soleil, la lune, les étoiles. Et enfin, le troisième ciel, dans leur compréhension, correspondait au monde spirituel et en particulier à la réalité de la présence de Dieu, du trône de Dieu, du paradis, comme l'apôtre l'appel au verset 4, la demeure de Dieu. Paul, parce que c'est bien de lui dont il s'agit, a été ravi dans la présence de Dieu, dans le paradis. Alors avec son corps, sans son corps, il ne sait pas exactement la nature exacte de l'expérience qu'il a vécue. Mais là, dans la demeure de Dieu, dans la présence de Dieu, il a entendu des choses extraordinaires, des choses merveilleuses, ineffables, dit-il, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Et puis pendant 14 ans, il semblerait que l'apôtre se soit tu, n'aurait pas dit grand-chose de cette expérience. En tout cas, il ne semble pas en avoir beaucoup parlé. Et la question qui s'impose à nous maintenant est celle-ci, pourquoi en parler maintenant ? Pourquoi en parler maintenant ? Et c'est le contexte de l'épître elle-même, de l'épître aux Corinthiens, qui va nous suggérer la réponse à cette question. Il y avait dans l'église de Corinthe des dirigeants, des enseignants qui se qualifiaient de super apôtres, de super spirituels. Mais Paul parle d'eux comme de faux apôtres, des apôtres de mensonges, des ouvriers de Satan. Ces perturbateurs se considéraient donc comme super spirituels, tout en accusant l'apôtre Paul de ne pas l'être. Eux étaient super spirituels, Paul, lui, était complètement charnel. Ils accusaient Paul d'être un faible. Et cette faiblesse était à leurs yeux le signe de l'échec de son ministère. Ainsi, ils critiquaient son manque d'éloquence, par exemple. Ils l'accusaient d'être charnel, nous l'avons dit. Ils insinuaient même que Paul détournait pour lui une partie de la collecte faite par les chrétiens de Jérusalem. Et pour couronner le tout, ils contestaient son autorité, ils contestaient son enseignement. Et au chapitre 10 et au chapitre 11 de cette deuxième lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul, en particulier là, à d'autres endroits aussi, mais surtout là, l'apôtre va répondre à ses détracteurs. Il va répondre à leurs critiques et j'aimerais vous en faire juste quelques lectures, quelques extraits. Tout d'abord, au chapitre 10, les versets 7 à 12. « Regardez les choses en face, dit-il. Si quelqu'un s'est persuadé lui-même d'être à Christ, qu'il tienne compte pour lui-même de ceci. S'il est à Christ, nous le sommes aussi. Et quand même je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour vous édifier et non pour vous abattre, je ne serai pas confus. Je ne veux pas paraître vous intimider par mes lettres, car, dit-on, ces lettres, les lettres de l'apôtre Paul, sont sévères et forte, mais présent en personne, il est faible, et sa parole est méprisable. Qu'il tienne compte de ceci, cet homme-là. Tel nous sommes en parole dans nos lettres étant absents, tel aussi nous sommes en acte une fois présents. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Quelques versets plus loin. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. On passe au chapitre 11, versets 3 à 6. Toutefois, dit-il, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Car si le premier venu vous prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien aux apôtres prétendus supérieurs, bien que profane pour l'éloquence, je ne le suis pas pour la connaissance. Et nous l'avons manifesté de toute manière à tous égards parmi vous. quelques versets encore, je dirais c'est la cerise sur le gâteau. L'apôtre écrit, versets 13 à 15, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres du Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » C'est sur leur propre terrain que l'apôtre va les contrer. Ces super apôtres prétendaient être les meilleurs, de meilleurs apôtres que Paul. Et une des raisons avancées semble être qu'ils ont fait des expériences extraordinaires, hautement spirituelles, dont ils se glorifiaient. Et c'est d'ailleurs certainement leur parole que Paul cite au verset 1, quand il écrit « Il faut se glorifier ». Ça, ce n'est pas lui qui le dit. C'est vraisemblablement ses super apôtres. Et il dit tout de suite après, cela n'est pas bon. Ainsi, semble-t-il, ses adversaires de Paul mettaient en avant des visions, des révélations, des manifestations de puissance pour prouver leur spiritualité supérieure. Et c'est ça qui va amener l'apôtre à parler de cette révélation extraordinaire qu'il a reçue de Dieu 14 ans auparavant. C'est donc pour répondre, pour contrer ses détracteurs, aussi pour convaincre les membres de l'église de Corinthe, que Paul parle de son ravissement dans le troisième ciel. Son but clairement n'est pas de se glorifier comme le font les faux apôtres de Corinthe avec leurs expériences. D'ailleurs, on peut noter la sobriété de ce que Paul dit quand il décrit cette expérience. Rien n'est dit pour attirer le regard sur lui. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, il parle de cette expérience à la troisième personne, comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Et ce n'est qu'au verset 7 que nous comprenons qu'il s'agit de lui. Paul, très clairement, ne veut pas se glorifier de cette expérience-là. Et il en donne la raison au verset 6. Il dit « si je voulais me glorifier », ce n'est pas le cas, mais « si je voulais me glorifier », « je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité ». Mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi. Paul ne veut pas que son ministère soit évalué par les Corinthiens avec les critères de ses détracteurs. Il ne veut pas être considéré à la lumière des révélations qu'il a reçues. Mais il veut que l'opinion des Corinthiens à son sujet soit basée sur son ministère, sur ce qu'il a fait parmi eux. J'aime tout particulièrement cette simplicité de l'apôtre. Une simplicité que je ne peux pas m'empêcher de comparer à la surenchère qui existe parfois dans le monde évangélique, où la seule chose qui semble compter, c'est le sensationnel, c'est l'extraordinaire. Attention à ne pas nous laisser éblouir par ces miroirs aux alouettes, par ce qui a le pouvoir de nous fasciner. S'il peut y avoir de l'extraordinaire dans la vie chrétienne, et il y en a, on peut tous sans doute témoigner de ce que Dieu a fait d'incroyable dans nos vies, je crois que c'est de l'ordre de l'exception et non pas de l'ordre de la norme. C'est encore ici-bas par la foi que nous devons marcher et non par la vue. Il est bon pour nous de nous rappeler que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui semble extraordinaire ne vient pas forcément, nécessairement de Dieu. Tout ce qui est hautement spirituel ou qui semble hautement spirituel ne l'est pas forcément. Nous l'avons lu au chapitre précédent. Paul vient de leur rappeler que Satan se déguise en ange de lumière. Un ange, c'est quelqu'un qui a un message de la part de Dieu. Satan se fait passer pour quelqu'un qui a quelque chose à dire de la part de Dieu. Et tout ça dans le but de tromper. Non, Paul ne veut pas se glorifier de cette expérience. Et il affirme plutôt au verset 5 vouloir se glorifier de ses infirmités. On est quand même surpris. Vouloir se glorifier de ses faiblesses. Je le mets de côté, on y reviendra dans un instant. Pour que Paul ne soit pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations qu'il a reçues, Dieu a donc permis une écharde dans sa chair. Quelle est cette écharde? De quoi s'agit-il? Les spéculations vont bon train depuis 2000 ans parmi les théologiens. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Le texte de Galates, chapitre 4, verset 15, où Paul dit « Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner », ce texte-là fait dire à certains que l'apôtre Paul avait un problème grave au niveau des yeux. D'autres parlent de la malaria et de ses conséquences, d'épilepsie, de problèmes d'élocution, j'en passe et des meilleurs. Je crois personnellement qu'il est préférable de ne pas trancher et que de ne pas trancher, en réalité, n'ampute rien à la compréhension du texte. Je crois même que Dieu, dans sa sagesse, a permis que ce flou demeure dans tous les âges, pour que dans tous les âges, tous les chrétiens puissent facilement s'identifier à Paul et tirer profit de la consolation qui est attachée à l'expérience douloureuse de son écharde dans la chair. Avant de passer au deuxième point, le deuxième point et le troisième point sont beaucoup plus courts, je vous rassure. J'aimerais rapidement dire un mot sur le rôle de Satan dans cette écharde. Paul parle d'un ange de Satan pour me souffleter. On n'utilise pas beaucoup ce verbe, pour me frapper, on pourrait traduire. Et m'empêcher de m'enorgueillir. Cette souffrance dans la vie de l'apôtre est donc le résultat direct de l'action d'un ange de Satan. Mais comme dans le cas de Job dans l'Ancien Testament, notons bien ici que Satan ne peut faire que ce que Dieu lui permet, et pas plus. Et dans le cas de l'apôtre Paul, c'est une écharde, pas deux, pas trois, pas quinze, c'est une écharde, et pas plus. Il est important pour nous de nous souvenir que c'est toujours Dieu qui fixe les limites de l'action de Satan. On se souvient de cette image dans l'Apocalypse, Satan enchaîné. Cela dit la limite que Dieu fixe, jusque-là et pas plus loin. Et ce sont des limites que Satan est obligé de respecter. Satan n'est pas tout puissant. Il est rebelle, mais il fait encore avec les limites que Dieu lui donne. Et puisque j'aimerais surtout souligner ici, en plus de la souveraineté de Dieu qui fixe les limites, c'est sa toute-puissance. La toute-puissance de Dieu qui lui permet de tirer un bien d'un mal, qui permet de transformer une situation douloureuse en source de bénédiction. Cette écharde mise dans la chair de Paul par Satan pour le faire souffrir va être utilisée par Dieu pour le bénir, pour le rendre fort, pour le préserver de l'orgueil. Mais attention, dire cela, ce n'est pas rendre la souffrance bonne, ni même nécessaire. Il faut que nous soyons au clair là-dessus. Dire cela, ce n'est pas non plus minimiser la souffrance, quelle qu'elle soit. Dire que Dieu peut tirer un bien d'un mal n'enlève rien à la puissance du mal qui reste toujours mauvais et qui reste toujours un intrus dans la création de Dieu. La souffrance, elle aussi, est toujours douloureuse, même si Dieu peut en tirer du positif. Elle est toujours douloureuse et mauvaise, et il n'y a rien de spirituel dans le fait de souffrir. Alors, on a développé des théologies de la souffrance, mais il n'y a rien de spirituel dans le fait de souffrir. Et la bonne nouvelle pour l'enfant de Dieu, c'est que Dieu est plus grand que le mal. Dieu est plus grand que la souffrance. Et même s'il les permet encore pour l'heure, c'est une évidence. Il les permet dans sa souveraineté, dans sa grandeur, dans sa toute-puissance. Et dans sa souveraineté, dans sa grandeur et dans sa toute-puissance, il promet à ses enfants sa grâce toute suffisante. C'est là où nous passons au point suivant. Une grâce toute suffisante. Une chose est sûre, cette écharde, quelle qu'elle soit, faisait souffrir l'apôtre Paul. Il ne fait pas semblant. C'était douloureux, c'était peut-être handicapant, c'était une vraie souffrance dans sa vie. Et Paul n'est pas masochiste, il n'aime pas particulièrement souffrir, pas plus que vous ou moi. Et il désire être délivré de cette écharde dans la chair, et on le comprend. Et par trois fois, dit-il, je ne sais pas si je me serais arrêté à trois fois, mais par trois fois, en tout cas après trois fois, il a compris la réponse du Seigneur, il a prié le Seigneur de lui ôter cette écharde dans la chair. Alors je le redis pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, il n'y a rien de spirituel dans la souffrance. Dieu peut en tirer du bien, mais la souffrance en elle-même, elle est attachée à ce monde déchu. Et il n'y a rien de mal à demander la délivrance à Dieu d'une souffrance que nous vivons. Encore faut-il être prêt à accepter la réponse de Dieu. Paul demande donc à Dieu la délivrance, mais la réponse de Dieu n'est pas celle qu'il attendait. Versets 8 et 9, « Trois fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit. » « Ma grâce te suffit, Paul. » Et il lui donne la raison, « Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Paul ajoute, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. On comprend bien pourquoi il le dit. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Pas ma puissance, mais la puissance de Christ. Non, Dieu n'ôtera pas l'écharde de la chair de Paul. Dieu n'ôtera pas cette souffrance de sa vie. Mais heureusement pour Paul et heureusement pour chacun de nous, ça ne s'arrête pas là. Et avec cette écharde qui reste, que Dieu permet, avec cette écharde qui restera jusqu'à la fin de sa vie, Dieu donne la révélation de la grâce toute suffisante, de sa grâce toute suffisante. C'est la grâce de son secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est la grâce de sa présence, dans les bons comme dans les mauvais jours. C'est la grâce de sa paix, en particulier quand la tempête fait rage. C'est la grâce de la confiance, de la foi qui nous est préservée, qui demeure en nous malgré l'épreuve. C'est la grâce de supporter l'épreuve, c'est la grâce de grandir dans l'épreuve, c'est la grâce de sa force qui nous est donnée dans notre faiblesse. Il arrive parfois que Dieu, dans la vie chrétienne, délivre ses enfants de l'épreuve. Et puis, il arrive parfois que Dieu permette une épreuve qui dure un peu plus longtemps, parfois même qui dure toute une vie. Et quand cela est le cas, n'oublions pas qu'il ne le fait jamais sans offrir en parallèle sa grâce toute suffisante. Cette grâce toute suffisante de Dieu dans nos épreuves, c'est une autre façon de dire ce que Paul dit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune épreuve, alors dans cette traduction, ça a été traduit par épreuve, le mot peut aussi se traduire par tentation. C'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or Dieu qui est digne de confiance, c'est la chose la plus importante dans ce verset. Dieu est digne de confiance. On peut lui faire confiance que ce qui est dit là est vrai et dans l'épreuve, nous trouverons sa grâce toute suffisante si nous la cherchons. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Voilà la grâce toute suffisante de Dieu qui parfois délivre, mais pas toujours, mais qui toujours nous accompagne, qui toujours nous soutient, qui toujours nous garde sous le seuil de rupture. Paul va devoir vivre avec cette écharde dans la chair. Il va devoir réajuster ses attentes. Il va devoir apprendre à vivre avec. Mais il peut envisager cette nouvelle vie, cette vie avec cette écharde, parce qu'il sait que Dieu s'engage à ses côtés. Il sait que Dieu ne le laissera pas tomber. Il sait que Dieu lui promet sa grâce. Non, Dieu ne l'abandonnera pas. Il en est convaincu, parce que Dieu lui offre d'être sa force dans sa faiblesse. Sa force dans sa faiblesse. Ce sera notre troisième et dernier point. Paul n'a pas voulu se glorifier des révélations extraordinaires qu'il avait eues de Dieu, mais il est prêt maintenant à se glorifier de ses faiblesses. Versets 9 et 10. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi Paul se glorifie-t-il de ses faiblesses? Il faut vraiment qu'on réponde à cette question. Si Paul tire gloire de ses faiblesses, ce n'est pas parce qu'il est en train de mettre sur pied un culte de la faiblesse, comme ça peut exister. Mais c'est parce qu'il a compris la leçon paradoxale de la force de Dieu qui s'accomplit dans notre faiblesse. Qui s'accomplit dans la faiblesse de celle ou celui qui, dans sa faiblesse, s'en remet à Dieu pour y arriver, pour tenir le coup, peut-être jour après jour, comme la manne dans le désert, c'est pas des provisions pour 3 mois et je reviens te voir Seigneur dans 3 mois, c'est jour après jour, mais les provisions sont là. Voyez-vous, nous sommes ici aux antipodes de certains principes de notre monde. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui très largement glorifie les forts et méprise les faibles. Heureusement, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quand même une vraie tendance dans notre monde. Il faut être fort, du coup. Si on veut y arriver, si on veut sortir du lot, peu importe les compromis à faire, peu importe les dommages collatéraux. Chers amis, la vie chrétienne ne doit absolument pas fonctionner comme ça. En fait, ce que Dieu désire de nous, ce n'est pas que nous soyons forts. D'ailleurs, si on est un peu honnête avec nous-mêmes, on constate assez vite que on n'est pas très fort. Ce que Dieu désire, ce n'est pas que nous prétendions être forts. Ce qu'il désire, c'est que nous soyons authentiques devant lui, autant que faire se peut, devant lui et devant les autres. C'est que nous reconnaissions notre faiblesse, c'est-à-dire notre besoin de lui pour y arriver. Et quand nous agissons ainsi, alors nous devenons forts. Là, nous devenons forts malgré notre faiblesse. Ce n'est pas nous qui sommes forts, c'est la force du Christ, la puissance du Christ en nous. Nous devenons forts de la force de Dieu, nous devenons forts pour supporter les épreuves de la vie, les échardes dans la chair que Dieu permet parfois sur notre chemin. Nous devenons forts et nous pouvons alors dire avec l'apôtre Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort. Chers amis, il est ici tellement facile de se tromper, tellement facile de chercher à lutter par ses propres forces, servir Dieu avec ses propres forces, obéir à Dieu avec ses propres forces. Alors bien sûr, il faut qu'on ait de la volonté, qu'on fasse des efforts. Mais tout ça, c'est voué à l'échec si nous ne dépendons pas de Dieu, si nous ne cherchons pas en lui la force pour y arriver. Cette force qu'il nous offre dans sa grâce, qu'il nous offre comme une grâce. Et quand nous raisonnons ainsi, quand nous agissons ainsi, alors là, nous sommes véritablement forts. Dans sa première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit cette mise en garde que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Chers amis, Dieu désire que nous soyons forts. Hop, j'ai sauté une ligne. Se croire fort, être debout, que celui qui pense être debout, se croire fort, c'est le meilleur moyen de chuter. Chers amis, Dieu désire que nous soyons forts de sa force, de sa grâce toute suffisante. Et c'est elle et elle seulement qui nous permettra de faire face à tous les défis de notre chemin ici-bas, à toutes les épreuves, alors ça ne les fera pas disparaître, mais ça nous permettra de les supporter si elles demeurent. Ça nous permettra de faire face à toutes ces échardes que Dieu peut parfois permettre dans nos vies. Alors que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses, non seulement de les comprendre, mais aussi de les vivre, la grâce de l'humilité dans notre faiblesse pour recevoir de lui sa force. Ce sera pour notre bien et ce sera surtout pour la gloire de Dieu. Amen.